Je vais essayer de dire les raisons d'être de ces journées. Pour ça, pourquoi j'ai eu le besoin d'organiser ces journées ? Eh bien, je voulais partir de la conjoncture institutionnelle qui, selon moi, alors ça tient peut-être à mon âge, mais d'autres que moi donneront leurs sentiments, c'est l'essor d'un formalisme académique nouveau qui est l'effet certainement des valeurs de compétition, d'évaluation et de productivité. Il en résulte un primat de critères formels, qui sont ceux, par exemple, des référises de revues, qui privilégient le culte des données, de la méthodologie, de l'état de la question, des références bibliographiques, etc., etc., sans avoir besoin de se prononcer sur le fond, la question, c'est-à-dire quel est l'enjeu réel de ce travail, quels sont les effets sur les instruments de connaissance du social et sur la sociologie. Donc, nous sommes dans une période de relative fragmentation académique des terrains, et par conséquent, il serait utile justement aujourd'hui de réactiver un peu l'idée oubliée qu'au-delà des terrains, les chercheurs ont en commun des outils et des problèmes et qu'à ce titre, la circulation entre domaines est tout à fait essentielle et n'est pas simplement une façon de politesse pour se reconnaître les uns les autres. Mais c'est quelque chose qui est central et je crois que justement cette notion de construction d'objets remplit justement annonce cette intention. Elle la remplit peut-être pas, on verra. Elle l'annonce et plus que ne l'auraient fait d'autres notions de Bourdieu, c'est-à-dire que, au fond, des journées d'études sur la notion de champ, on aurait pu imaginer ou craindre une juxtaposition justement de champs, etc., etc., capitaux, etc. La notion de construction d'objets nous force, nous met un peu au pied du mur épistémologique, donc nous force à prendre position sur ce que cela représente pour nous et le rapport au fond qu'on a à la discipline, tout simplement. Alors, ma présentation, elle aura pour dessein principal de dire ce qu'est la construction d'objets chez Bourdieu, ou du moins de le rappeler, peut-être que je n'apprendrai pas grand-chose, et certainement à beaucoup d'entre vous. Ensuite, je ferai quelques remarques critiques. Alors, la construction d'objets n'est pas une opération magique ou solennelle, c'est le résultat d'un travail long et patient. Je cite Bourdieu, « La construction d'objets, au moins dans mon expérience de chercheur, n'est pas quelque chose qui s'opère d'un coup par une sorte d'acte théorique inaugural. C'est un travail de longue haleine qui s'accomplit peu à peu par retouches successives, par toute une série de corrections, de redressements inspirés par ce qu'on appelle le métier. » Excellente illustration de ça chez Bourdieu, c'est le livre « Le bal des célibataires ». Voilà. Alors l'idée principale, c'est que les objets de connaissance sont toujours construits d'une façon ou d'une autre. Ce qu'il s'agit de faire est de remplacer les constructions déficientes par des meilleures, au moins provisoirement. Deuxième idée, le sociologue n'est pas un journaliste plus honnête, scrupuleux, méticuleux que les autres. Il fait autre chose que du bon journalisme, c'est-à-dire qu'il ne se contente pas de fournir des données, il procure une autre manière de voir, je pense que le mot n'est pas trop fort, une autre manière de voir, c'est-à-dire justement une manière de voir qui va permettre d'apercevoir une série d'objets homologues, d'apercevoir des comparaisons, des contrastes, etc. Bon, bref rappel de l'épistémologie de Gaston Bachelard. Bachelard entendait essentiellement souligner la discontinuité foncière du sens commun et de la science. Et pour cela, il mettait en avant la notion d'obstacle épistémologique, ce qui signifie que c'est dans l'acte même de la connaissance qu'est inscrit un obstacle, et pas simplement dans des limites techniques comme les limites de nos sens ou la richesse du réel. Je cite, « La science, dans son besoin d'achèvement comme dans son principe, s'oppose absolument à l'opinion. S'il lui arrive sur un point particulier de légitimer l'opinion, c'est pour d'autres raisons que celles qui font de l'opinion. De sorte que l'opinion a en droit toujours tort, l'opinion pense mal, elle ne pense pas, elle traduit des besoins en connaissance. Donc pour Bachelard, c'est le sens du problème qui constitue l'essentiel de la démarche scientifique, c'est-à-dire la capacité de prendre l'initiative en proposant des questions des grilles d'analyse et en refusant les solutions toutes faites. Pour un esprit scientifique, je cite Bachelard, toute connaissance est une réponse à une question. S'il n'y a pas eu de question, il ne peut y avoir connaissance scientifique. Rien ne va de soi, rien n'est donné, tout est construit. Le rationalisme appliqué, cette notion fameuse de Bachelard, est un lieu de tension entre positions opposées et non pas une position dogmatique unilatérale. C'est ce que chez Durkheim on appelle l'empirisme rationaliste, Durkheim reprenant une expression de Taine, ça désigne à peu près la même chose, c'est-à-dire cette espèce de position centrale qui n'est ni idéaliste ni réaliste, ni empiriste ni théoriciste, etc. Néanmoins, pour Bachelard, il y a toujours une initiative de la raison. L'esprit scientifique, pour lui, est intrinsèquement rationaliste et non pas empiriste. Alors, je cite, « Le sens du vecteur épistémologique nous paraît bien net, il va sûrement du rationnel au réel et non point à l'inverse de la réalité au général, comme le professaient tous les professeurs de tous les philosophes depuis Aristote jusqu'à Bacon. Inversement, s'il y a bien une philosophie du sens commun, c'est bien l'empirisme. » Je cite à nouveau Bachelard, « Entre la connaissance commune et la connaissance scientifique, la rupture nous paraît si nette que ces deux types de connaissances ne sauraient avoir la même philosophie. L'empirisme est la philosophie qui convient à la connaissance commune. Au contraire, la connaissance scientifique est solidaire du rationalisme. » Donc, rationalisme appliqué d'un côté, position d'équilibre, mais néanmoins, chez Bachelard, l'idée que le sens du vecteur épistémologique va du rationnel au réel. Donc il y a une initiative de la raison. Bon, alors, j'en viens maintenant à Bourdieu. Il reprend à son compte la terminologie bachelardienne de l'obstacle et de la rupture, et le métier de sociologue est organisé autour d'un principe. Non seulement les faits scientifiques sont conquis, construits, constatés, mais il faut admettre, je cite Bourdieu et les autres, Passeron et Chamboredon, la hiérarchie épistémologique des actes scientifiques subordonne le constat à la construction et la construction à la rupture. Bon, le sens commun n'offre pas à proprement parler de construction, mais seulement des objets préconstruits. Alors, c'est peut-être ça qui est difficile à penser, justement. Le sens commun, en effet, repose sur ce qu'on pourrait appeler une forme de mythe du donné. Alors, mythe du donné n'est pas une expression bourdieusienne ou bachelardienne, c'est une expression d'un philosophe Sellars, je ne sais pas exactement quelle date Sellars a écrit, c'est un philosophe analytique. L'idée, c'est que d'accorder une valeur de fondement à ce qui est implicite, à ce qui va de soi, à ce qui est passif. Alors, à ce qui est implicite versus ce qui est explicite, à ce qui est passif versus ce qui est actif. Donc la construction, elle est à la fois active et elle est explicite. Alors, les exemples d'objets préconstruits visés dans le métier sont les classifications par domaine apparente, expression des auteurs du métier, comme celles qui concernent la famille, le loisir, la ville, les jeunes, les vieux, les problèmes sociaux ou encore ces produits, je cite, de croisement de critères empruntés à l'expérience commune que sont les loisirs des adolescents d'un grand ensemble de la banlieue est de Paris. Bon, autre mythe du sens commun, c'est le mythe de la substance. Le sens commun, selon les auteurs du métier, est foncièrement substantialiste, essentialiste. Il est plus facile de penser en termes de réalité qui peuvent se toucher du doigt, en quelque sorte, comme les groupes constitués et les individus, qu'en termes de relations. Donc ici, c'est l'idée que le réel est rationnel. Il y a un primat, en quelque sorte, de l'abstraction, par rapport à tout ce qui est donné intuitivement, et l'intuition va toujours dans le sens de la substance, du substantialisme. Au contraire, le formalisme déconcerte le sens commun. Alors, cela dit, les auteurs du métier distinguent soigneusement un bon formalisme qui est fondé sur l'idée que le réel est relationnel, et le mauvais formalisme qui se contente d'habiller en termes abstraits, en termes formels, des intuitions substantialistes du sens commun. On pourrait développer ce point-là, mais le temps me manque. Alors, exemple d'analyse relationnelle. La notion de classe dominante apparaît comme un concept réaliste qui désigne une population bien réelle. Et à cette classe dominante, il faut opposer la notion de champ du pouvoir qui désigne les rapports de force entre des positions sociales qui assurent à leurs occupants un quantum suffisant de force sociale leur permettant d'entrer dans les luttes pour le monopole du pouvoir. Donc la notion de champ, évidemment, est l'illustration de ce point de vue relationnel. Donc voilà essentiellement, très condensé, la vision bourdieusienne dans le métier de sociologue, donc une critique de sens commun, que les auteurs associent à celle du positivisme et de l'empirisme, dans une lignée bachelardienne, et d'autre part, l'incorporation dans la pratique du sociologue des acquis du structuralisme. C'est-à-dire, alors pour Bourdieu, le structuralisme, c'est pas seulement Lévi-Strauss, c'est Cassirer, c'est des gens comme ça, même Leibniz, vous voyez, bon, c'est Saussure. Bon, alors, maintenant, ayant présenté très rapidement les positions de Bourdieu sur la construction d'objets, je voudrais soulever quelques questions. Première question, c'est celle de l'anti-empirisme et de l'anti-positivisme. Alors, on peut se poser autrement la question de savoir si cette critique de l'empirisme et du positivisme était tellement essentielle, était tellement indispensable. Au fond, qu'est-ce qu'il entend par là? Est-ce que c'est véritablement le positivisme et l'empirisme des philosophes? En effet, alors, et ensuite, évidemment, l'assimilation, dans la plupart des passages, les termes sont indifférents. Enfin, je voudrais qu'il y ait des commentateurs qui me disent que non, empirisme et positivisme apparaissent à des moments différents. Je ne vois pas trop la différence. Or, des philosophes pourront à juste titre insister sur la différence entre l'empirisme, qui correspond en gros à une valeur de fondement attribuée au sens data, le rôle éminent de l'induction, alors que le positivisme est parfaitement compatible avec l'idée d'une construction théorique sophistiquée. Il s'agit simplement pour le positiviste de trouver la construction, donc il y a bien construction, la construction qui permet le mieux de rendre compte des lois et des phénomènes conservés, préalablement délimités et sélectionnés par les questions posées. Donc c'est après, si on peut dire, enfin, que peuvent apparaître c'est pas au niveau du travail du sociologue, c'est après, dans la théorie de la connaissance, qu'il peut y avoir des problèmes ou des dissentiments. Est-ce que c'est tellement indispensable, cette prise de position sur l'empirisme et le positivisme? C'est toute la question de ce que c'est, de ce qu'est le statut du métier de sociologue. Voilà. Bourdieu et les autres auteurs, enfin les auteurs du métier, distinguent la théorie du social, et par exemple la théorie structuraliste, une théorie du social, bon, et puis la théorie de la connaissance du social. Alors ils ont la naïveté de penser en 1968-70 que tous les sociologues de métier devraient s'accorder sur une théorie commune de la connaissance du social. Bon. C'est ce qu'ils disent, vous pouvez... Bon. Et ils ont aussi la naïveté de penser qu'on peut séparer théorie du social et théorie de la connaissance du social. Mais théorie de la connaissance du social, à mon avis, ce n'est pas très très différent de ce qu'on peut appeler philosophie de la science. Voilà. Est-ce que le métier de sociologue a vraiment comme but de proposer une philosophie de la science sociale, une philosophie de la connaissance du social? On peut penser que Bourdieu mêle deux registres, celui de l'épistémologie, qui consisterait à situer la connaissance sociologique dans l'espace des théories de la connaissance en concurrence, donc empirisme, positivisme, rationalisme, etc., etc., conventionnalisme, ce que vous voulez. Donc il mêle ce registre avec celui du métier de sociologue, qui concerne non pas la connaissance considérée après coup, une fois réalisée, mais la science se faisant. Et d'ailleurs, dans le métier, est mise en avant avec insistance une distinction qui est celle de l'ars inveniendi, qui a la préférence des auteurs du métier, et l'ars probandi, qu'ils ont tendance à renvoyer aux méthodologues critiqués pour leur formalisme stérile, eux qui viennent après coup dire ce que devrait être la science, comment ça doit fonctionner. Il y a un certain agacement devant non pas nécessairement un travail de mise en forme de type philosophique, mais devant en tout cas quelque chose qui serait prématuré, c'est-à-dire qui dirait ce que devrait être la science avant qu'elle se fasse. Il y a d'ailleurs chez Durkheim des propos à peu près équivalents où il manifeste le même type d'agacement. Alors, chez les philosophes néo-positivistes, il y a une distinction éclairante qui est celle du contexte de découverte et du contexte de justification. Donc le contexte de découverte consiste à montrer les opérations effectives mises en œuvre pour parvenir à des résultats. Au contraire, le contexte de justification, qui ressemble un peu à l'ars probandi, il a pour visée de montrer la structure logique de la construction scientifique. Et on peut penser que c'est un seul de ces registres qui intéressait véritablement Bourdieu, et Bourdieu il y a une différence là avec Passeron, qui lui, ultérieurement, s'est engagé effectivement dans quelque chose qui ressemble à une théorie de la connaissance du social, à un travail, au fond, de type reconstruction logique de la science. Bon, Bourdieu était enclin à penser que la priorité n'était pas de faire en philosophe de l'épistémologie, mais plutôt de contribuer à la sociologie de la sociologie, la sociologie des intellectuels. Donc il y a un côté pratique, et chez Bourdieu, ce n'est pas simplement un slogan, un mot. Concrètement, la réflexivité ne s'exerce pas par une visée, enfin pas par une, pas par l'exploitation des ressources de la philosophie, mais plus exactement par celle de la sociologie. La sociologie, sans que pour autant ce soit un manifeste de rupture avec ce que pourrait être un travail philosophique autour de la connaissance sociologique. Donc il avait un souci de refuser les préceptes standards et l'aplatissement de l'ars inveniendi dans des formules toutes faites. Il s'agit pour Bourdieu de comprendre les choses ce qui est le plus difficile au fond pour un sociologue. On ne comprend qu'après coup, et il s'agit de reconstituer ce qui a entravé la découverte, ce qui fait que ce qui est en cause, ce ne sont pas simplement des obstacles techniques, je vous renvoie à la citation de Bachelard tout à l'heure, mais que c'est dans l'acte même de connaissance, et dirait Bourdieu, dans la position sociale du sociologue, que des obstacles peuvent se présenter, et c'est ça au fond qui l'intéressait beaucoup plus que la querelle, par exemple, avec empirisme ou positivisme. Troisième difficulté, c'est la question du réalisme, réalisme ou idéalisme. Qu'en est-il ? Ça, c'est une question typiquement bourdieusienne et du Bourdieu de la maturité, si je puis dire. Qu'en est-il du savoir spontané des agents, d'une part, et d'autre part, du savoir savant des savants ? Comment ces deux savoirs se connectent l'un avec l'autre. Est-ce que nous devons choisir ? Alors là, vous me permettrez de faire un petit détour philosophique, parce que justement, le rapprochement s'impose, c'est le problème justement du réalisme ou versus idéalisme. Je renvoie à des analyses de Jacques Bouvresse, qui cite le physicien Eddington. Donc, dans un passage célèbre, Eddington a défendu l'idée qu'il existe des doubles de tous les objets autour de moi. Ma table, par exemple, existe en deux exemplaires, à première vue, bien différents l'un de l'autre. Il y a la table familière, qui est compacte et solide, et la table scientifique, qui est faite pour l'essentiel de vide. La physique moderne nous assure que la deuxième table, la table scientifique, est la seule qui existe réellement. Qu'en est-il de la table ordinaire ? Est-il possible d'y attribuer aussi une réalité, ou bien doit-elle être considérée plutôt, selon les termes d'Eddington, comme une sorte d'ombre ou de fantôme ? Donc, Eddington prend une position contre le sens commun. Alors, comment situer cette position d'Eddington ? Sur le plan philosophique, selon Bouvresse, on peut distinguer quatre positions qui ont chacune leur version proprement sociologique. Première thèse, première possibilité, première option, la connaissance ordinaire accède à la réalité, la science étant rejetée vers une vision instrumentaliste, fictionnaliste. Donc, ce qui est réel, c'est la table que je vois, et à part ça, les savants vont se mettre à construire des abstractions, des fantômes qui n'ont pas véritablement de référent. Deuxième possibilité, la science accède à la réalité alors que le sens commun s'en tient aux apparences. C'est donc la position, si j'ai bien compris, d'Eddington. Et c'est ce que Bourdieu appelle l'objectivisme, qui est incarné pour lui par le structuralisme. Troisième option, la vraie réalité est radicalement hors de portée, que ce soit pour la science ou pour le sens commun. On peut seulement se débrouiller pour sauver les apparences, pour vivre, répondre aux nécessités ordinaires de l'existence. Cette position serait celle, me semble-t-il, du relativisme de type nietzschéano-foucauldien, puisque on est, savant ou pas savant, on est voué à des constructions, à des fictions. Enfin, dernière option, qui est incontestablement celle qui a la préférence de Bouvresse et d'un auteur qu'il cite qui est de Demet, la science prolonge le sens commun, toutes les deux s'efforcent d'accéder à la réalité. Voilà, position qu'on peut appeler, si l'on veut, de conciliation, mais en tout cas qui consiste à ne pas choisir l'un contre l'autre. Alors, quelle est la philosophie, au fond, qui est présupposée par la notion de construction d'objet ? Pour Bouvresse, il nomme Bachelard, et il le critique, justement, parce que, pour lui, cette mise en avant de la notion de construction est de nature idéaliste. Je cite Bouvresse, « Une fois qu'on a admis que les entités théoriques postulées par la science sont essentiellement des êtres de pensée et non de réalité que dans l'esprit, on ne voit pas pourquoi on devrait continuer à s'interroger sur le genre de réalité qu'elle pourrait avoir aussi en dehors de l'esprit. » Donc on voit le risque, c'est de glisser de la construction au constructivisme. Alors, les auteurs du métier peuvent donner effectivement l'impression de s'engager dans une direction idéaliste. Et il cite, en l'approuvant, la déclaration de Saussure qui dit que le point de vue crée l'objet. Dans la science, le point de vue crée l'objet, et le métier de sociologue reprend plus ou moins cette idée. Bon. Récemment, en lisant l'anthropologie économique de Bourdieu, je suis tombé sur un passage qui m'a semblé extrêmement éclairant, où il revient justement là-dessus, et il déclare à propos d'un économiste orthodoxe, Jean Tirole, il déclare, alors peu importe la critique adressée à Tirole, ce qui nous intéresse ici, c'est le problème de construction, il est vrai que le point de vue contribue à créer l'objet, mais le bon point de vue scientifique crée l'objet conformément à ses structures. Au-delà de la distinction entre idéalisme et réalisme, il y a en effet une sorte de constructivisme réaliste selon lequel la science construit, mais conformément aux structures de l'objet. Donc là, nous avons une espèce de rectification de Saussure, Saussure qui était le porte-parole, en quelque sorte, des auteurs du métier de sociologue, où il est proposé une position qui est celle que Bourdieu appelle constructivisme réaliste. Alors je pense que Bourdieu a toujours été réaliste, c'est-à-dire il a toujours soutenu l'idée qu'il y a une connaissance scientifique, cette connaissance porte sur une réalité extérieure, et ce qui fait la difficulté peut-être de sa position, ou peut-être la difficulté au-delà de Bourdieu des sciences sociales, c'est que le réalisme de Bourdieu s'accompagne d'un refus de l'objectivisme. C'est un réalisme en quelque sorte anti-objectiviste. En effet, la science, selon Bourdieu, combine deux opérations. L'objectivation, qui invite à ne pas s'en tenir à la vision de sens commun, donc c'est tout l'héritage bachelardien qu'on a mentionné rapidement. Mais d'un autre côté, l'autre opération, c'est l'objectivation du point de vue du savant, qui consiste précisément à distinguer ce point de vue et le point de vue des agents, et à faire de ce point de vue des agents un aspect de la réalité objective appréhendée par la science. Ce qu'on peut appeler une dialectique, si vous voulez, c'est au fond, je crois, l'intérêt de la position de Bourdieu, qui est une position un peu compliquée, mais qui essaye de combiner cet anti-objectivisme important, central, et puis d'un autre côté, le réalisme scientifique, ou de combiner, si vous préférez, réalisme de sens commun et réalisme scientifique. Oui, une autre question consisterait à se demander si de toute façon, pour le sociologue, les notions ont la même valeur, notamment les notions, oui, l'image manifeste et l'image scientifique, c'est-à-dire la science physique repose sur une critique de l'image manifeste, la table que je vois, met en avant l'image scientifique. Est-ce que on peut penser que dans le domaine des sciences sociales, il y a une simple réplique de ce couple? Est-ce que ça fonctionne de cette manière-là? Bon, en effet, dans le monde social, les images manifestes sont des réalités sociales. Elles sont issues d'une histoire. On ne peut pas les écarter simplement au nom d'une espèce de platonisme ingénu, en les déclarant comme purement apparentes. Elles ont une réalité objective. Et la table d'Eddington, alors on peut, j'avais pas pensé à ça au départ, mais enfin je me suis amusé à faire l'exercice, la table d'Eddington, elle a une réalité physique manifeste, une réalité physique scientifique, mais aussi une réalité sociale, c'est-à-dire qu'elle est objectivement dotée d'un prix, d'un style, d'une ancienneté, etc., etc. Ça nous fait accéder à un type de problèmes qui sont ceux d'un sociologue, c'est-à-dire le caractère historique de la réalité objective, problème qui n'est pas évidemment celui des physiciens, sinon dans des sens extrêmement... Voilà. Je vais m'obliger moi-même à respecter les contraintes de temps, donc je m'accorde 2 minutes pour dire ce que j'aurais pu développer, annoncer ce que j'aurais pu développer. La sociologie est foncièrement une science des obstacles sociaux à la sociologie. Les obstacles épistémologiques bachelardiens sont des obstacles sociaux. Il faudrait, au fond, pour montrer ce qu'est ce travail de construction d'objets, à chaque fois faire un récit qui ne serait pas héroïque ou intimiste, mais enfin un récit de l'entreprise de recherche, de ce en quoi elle a consisté, des obstacles qu'elle a dû surmonter, et donc de ses apports généraux ou génériques pour la connaissance du monde social et pour la conception que l'on a de la sociologie elle-même.